It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur So Sweet Planet Mika Gergescu pour parler de ce superbe livre « La fabrique de l'histoire de l'art », 200 revues de 1903 à 1969. C'est un magnifique panorama des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publié par les éditions textuelles avec le Centre Pompidou et sa bibliothèque Kandinsky. Bonjour Mika.
Bonjour Anne, merci pour votre invitation.
Je suis ravie de pouvoir parler de ce livre avec vous parce que quel travail, c'est énorme. Vous êtes docteur en histoire de l'art et responsable de l'accueil scientifique et de la programmation à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. Ce très beau livre de 430 pages, comment pourriez-vous nous le présenter avant d'entrer plus en détail dans le sujet ?
Je pense que vous avez bien commencé, quel travail. Et peut-être je rajouterai, c'est un travail d'abord, c'est un travail collectif ensuite, et c'est une collection. C'est un tout petit aperçu à travers ces 200 revues d'une collection très très conséquente qui est aujourd'hui conservée, hébergée par la bibliothèque Kandinsky, qui est, petite parenthèse, mais qui est importante, la bibliothèque du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Donc, c'est une collection patrimoniale que vous avez entre vos mains dans cet ouvrage édité avec la complicité, la grande complicité des éditions textuelles.
Là, on a 200 revues, hein, donc il y a des reproductions, des facsimilés, quelquefois c'est la couverture, quelquefois on a droit à quelques pages, on aimerait toujours en voir plus, tellement c'est passionnant et intéressant visuellement et pour le fond, on va en parler. Mais en fait, j'ai vu que cette collection, il y a plus de 8000 revues.
Oui, je ne pense pas qu'on ait le chiffre exact. C'est une sélection de 200 revues sur un ensemble qui aujourd'hui doit approcher plutôt les 9000 titres de revues, toutes disciplines culturelles, on va dire, de manière la plus englobante possible, qui sont aujourd'hui conservées à la bibliothèque Kandinsky, parmi d'autres collections documentaires, archivistiques, très importantes sur l'art moderne et contemporain du XXe siècle. Donc il y a cette spécificité du XXe siècle qui est aussi représentée dans cet ouvrage.
Et l'idée est née quand et comment de réaliser ce livre et ça vous a pris combien de temps ? Parce qu'il y a évidemment les reproductions visuelles qui nous permettent de voir vraiment ces... Mais il y a surtout, avec des petits textes, la remise dans un contexte à chaque fois.
Tout à fait. Et c'est une idée sans doute qui était une idée latente de présenter cette collection de revues. Et c'est une idée qui s'ancre, s'enracine tout d'abord dans les expositions que le Musée national d'art moderne a consacrées au parcours des revues, au parcours revuistique. Et comme ces expositions de revues se sont accumulées ces dernières années, c'est sans doute un effet revue qui est très, très intéressant et qui a conduit de manière très, très généreuse les Marianne Théry et les éditions textuelles de nous approcher justement pour présenter cette collection de revues. Et par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure un travail collectif des collègues de la bibliothèque Kandinsky, ma collègue Laurence Gueye-Parmentier, notre ancienne collègue Stéphanie Rivoire et Didier Schulman ont participé dès le début à ce concept de publication que nous avons accompagné aussi avec la complicité d'autres collègues par ailleurs qui sont spécialistes de certains terrains et de certaines disciplines d'ailleurs. Et peut-être on évoquera un peu plus tard ces différentes interventions dans la publication. Donc, pour revenir à votre question, c'est une idée qui germait et c'est une idée qui se voit aujourd'hui concrétisée dans cette anthologie de titres.
Alors, avec la présentation de ces revues, vous nous faites voyager, parce qu'on traverse le siècle, donc on voyage dans le temps, puis on voyage sur la planète aussi. Hein. Donc, vous nous faites voyager de Prague à Montevideo, de San Francisco à Saint-Pétersbourg, de Tokyo à Mexico, de Belgrade à Lagos, de Sao Paulo au Brésil à Paris, en passant par Berlin et Milan. J'aime beaucoup les dernières phrases de l'introduction que vous avez signée et qui disent « Traverser une partie du XXe siècle en revue, c'est témoigner de la vivacité et de la pertinence de ces publications atypiques, toujours nouvelles, toujours critiques, attrapant l'esprit du temps et étant modelées par lui. La revue ne cesse de provoquer, d'agiter et de convoquer les inventivités et les intelligences. » À titre personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surprise dans ce travail ?
C'est une question qui me traverse toujours, d'ailleurs, et je la dois toujours à mes collègues et des collègues chercheurs ou des collègues conservateurs ou des collègues bibliothécaires. Je pense profondément que la revue d'art, c'est un formidable terrain et un formidable laboratoire. Bon, c'est peut-être banal pour tous les experts des études de la revue qui le savent déjà et qui savent à quel point la revue est un objet très, très plastique et qui change beaucoup tout le temps, qui se contredit, qui accueille parfois des contributions absolument remarquables entre ses pages, mais qui s'épuise très vite. C'est le rôle de la revue de devenir, de la laisser tomber très vite. Ce qui est très intéressant avec le corpus des revues d'art d'architecture ou de design, c'est à quel point l'histoire de l'art moderne est construite entre les pages des revues et comment les articles ou les artistes qui ont fait cette histoire-là de l'art moderne et contemporain passent par la revue comme un outil formidable de travail artistique ou de travail critique. Et c'est pas anodin aussi que les dernières années ont vu se multiplier dans le champ scientifique, dans le champ académique aussi, de très nombreux projets de recherche sur les revues. Et il y a différentes chercheurs, je peux les citer si vous souhaitez, d'Evangelia Sted à Zaya Ramani, ou à échelle internationale de Béatrice Colomina à tout le réseau Esprit qui étudie aujourd'hui les revues d'art, qui mène un travail absolument formidable sur les revues d'art, sur les revues culturelles, comme outil de la modernité, outil de l'avant-garde. Et cette inventivité-là, bien sûr, j'en suis habitée et la collection est habitée par cette modernité. On reviendra peut-être aussi sur le caractère très international des revues, mais c'est placé à la bibliothèque Koninsky, on capture cette dimension internationale avec beaucoup de facilité à travers les revues.
Mais à la bibliothèque, c'est accessible au grand public, toute cette collection ?
C'est pas accessible au grand public. Le profil de la bibliothèque Koninsky, c'est d'être une bibliothèque spécialisée en histoire de l'art moderne et contemporain et qui s'adresse à des chercheurs plutôt confirmés parce que vous avez des objets patrimoniaux qui ont besoin d'un soin attentif, oui, et d'une attention importante pour la manipulation et pour le travail de chercheurs. Tout à fait rares, précieux, mais il n'empêche, ils sont accessibles et on essaye de les communiquer soit dans leur format matériel, parce que c'est important d'avoir cette matérialité-là, soit à travers des campagnes de numérisation et de diffusion auprès des chercheurs. Et pareil, je crois qu'on reviendra sur cet aspect, la mise en ligne des revues, des grandes bases de données, de ressources numériques, de revues d'art à travers le monde. D'ailleurs, ont constitué un formidable levier pour les nouvelles études, et pour les nouveaux chercheurs, pour les artistes surtout, pour les artistes et pour les designers et pour les architectes, pour revisiter cette histoire.
Alors, la période couverte par ce livre va de 1903 à 1969. Pourquoi ces dates ?
Parce que c'est une histoire très subjective. Et ça, on le dit, on l'assume. On n'avait pas forcément envie de repliquer les histoires de l'art communément admise et avec les bornes temporelles strictes de certaines histoires de l'art, et parce que la revue ne s'ancre pas dans une chronologie très rigide. Et on commence la sélection par une revue qui s'appelle « L'autre, Das andere » de Adolf Loos, qui est une revue d'architectes, et c'est presque une première revue conceptuelle d'architectes qui est un manifeste très, très assumé de la part d'Adolf Loos, une figure majeure de la modernité architecturale en début de siècle, pour marquer un premier moment d'interrogation, de questionnement. Et on clôt cette sélection sur une revue qui s'appelle Art and Language et qui est une revue conceptuelle, d'art conceptuel, et qui marque une autre rupture qui débouchera par la suite sur un genre spécifique de la revue d'artiste, sur la revue d'art et sur des pratiques conceptuelles qui marquent une étape dans cette histoire revuistique. On aurait pu prendre d'autres dates par ailleurs. On aurait pu commencer avec 1901 et finir sur 1968 ou 75, et avec des titres tout aussi importants.
Oui, j'imagine que ça doit être assez énorme à partir des années, toute la culture ensuite des années 60, avec tous les différents mouvements, mais le mouvement hippie et toute la musique et tout ce qui s'est croisé. Visuellement, il y a eu aussi beaucoup de revues, mais après, ça doit être compliqué de savoir où commence et où s'arrête la revue culturelle aussi, parce qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi après dans ces années-là, qui ne sont pas couvertes hein, d'ailleurs par le livre. Mais je me suis posé la question, parce que du coup, j'étais presque un peu frustrée à la fin du livre de me dire « Ah oui, c'est vrai, ça s'arrête en 60. »
C'était notre frustration aussi, parce que l'exercice est assez difficile d'isoler de son titre toute discipline culturelle confondue. Je pense qu'on touche aux axes majeurs de la pensée, et oui. S'arrêter à 200 titres sur cet ensemble de 9000, presque 9000 titres de revues. Donc forcément, c'est un ouvrage plein de frustration, si vous voulez, mais je pense qu'il marque certains moments assez divers et diversifiés, qui oui. vont de la revue très luxueuse, de la revue d'art majeure, à des revues oui. éphémères, à des revues engagées, militantes, politiques.
Ah oui, on va en parler.
Voilà, on va en parler, oui. sans doute.
Alors donc, cette collection de la Bibliothèque Kandinsky du Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou à Paris, donc qui est composée par, vous nous avez rajusté, donc autour de 9000 titres, c'est l'un des fonds les plus riches du monde. Le choix, j'imagine, a été difficile, hein, comme on le sent dans ce que vous venez de nous dire. Et vous dites en introduction du livre que c'est un récit parallèle au récit de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Et Camille Langlois écrit, page 95, que les revues non seulement complètent l'histoire de l'art moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais permettent de la réécrire. Et je me suis demandé en lisant ça, est-ce que ce récit parallèle à l'histoire de l'art qui est complémentaire, comme vous le dites toutes les deux, est-ce que ce récit peut aussi parfois contredire le récit de l'histoire de l'art moderne et contemporain que l'on connaît ?
Je ne sais pas s'il le contredire, mais sans doute le nuancer. Le nuancer beaucoup. Oui. Quand on plonge dans les revues d'art, on a des avis peut-être plus relatifs par rapport à l'engagement de certains artistes ou bien à la manière d'écrire les théories de certains mouvements ou les dynamiques de groupe ne sont pas forcément celles que l'histoire de l'art très condensée, qui a aussi son rôle et sa nécessité. Mais cette histoire-là laisse de côté des rencontres, laisse de côté des mouvements, laisse de côté des contradictions, parfois même idéologiques, esthétiques, que la revue mesure de manière très intelligente. Et c'est sans doute entre les pages d'une même revue, on rencontre parfois des acteurs que l'histoire de l'art canonique a essayé d'isoler dans les champs des mouvements ou des groupes pour les stabiliser en quelque sorte. Moi, j'aime bien considérer les revues comme des objets assez instables. Vous pouvez écrire un jour ou appartenir à un mouvement un jour dans une tribune et s'en détacher ou migrer ensuite vers d'autres. Et c'est ça qui est assez intéressant et difficile d'écrire d'ailleurs dans l'histoire des revues. Mais ce n'est que des moments T, dans un instant T, qui peuvent être isolés dans les revues. Et de l'autre côté, il y a des revues qui gardent leur cap de manière très, très stricte aussi, et ils ne se détachent pas de leur feuille de route. Et vous avez des revues conceptuelles, par exemple, ou des revues militantes, engagées, politiques, qui gardent leur feuille de route de manière très rigoureuse. C'est ça qui est intéressant aussi.
Oui, mais alors quand même, ce qui m'a frappé, je ne sais pas du coup si la sélection que vous avez faite est le reflet d'une réalité, mais dans ceux qui ont créé ces revues, les femmes sont quasiment inexistantes. Il y en a quelques-unes, mais quand même, elles sont tellement rares.
Je pense que la sélection que nous avons opérée réintroduit des figures femmes quand même dans cette histoire des revues. De Margaret Anderson et Jane Heap qui avaient piloté une revue moderniste, The Little Review, à Paris, entre Paris, New York et Chicago, jusqu'à Vittoria Ocampo, jusqu'à des figures peut-être moins connues justement par cette histoire de l'art qui se concentrait plutôt sur des hommes éditeurs. Mais The Tiger's Eye, c'est Ruth Steven qui mène la revue. Elles sont traversées par des figures de femmes directrices, de femmes éditrices. Et je pense que la sélection raconte une histoire aussi de femmes éditrices qui est importante. Mais c'est vrai que vous avez moins de directrices de revues dans les années 20-25. Mais ça s'équilibre en termes de parcours éditorial. Et je pense qu'on aurait pu rajouter d'autres figures féminines de femmes éditrices, de femmes directrices.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de plus de ces pionnières qui ont créé et édité The Little Review dans les années 20 ?
Oula, The Little Review, c'est une institution. Et c'est une institution que Margaret Anderson et Jane Heap conduisent sur les deux continents. Donc, elle démarre à Chicago, si ma mémoire est bonne, Vienne à Paris dans les années 20. Et The Little Review, c'est une plateforme qui sera associée aussi au grand procès de Ulysses de James Joyce et qui accueillera entre les pages de la revue des numéros spéciaux, des spéciaux dédiés à Brancusi, à Fernand Léger, au mouvement Dada. Je pense que même l'histoire Dada qui est racontée par Jane Heap et Margaret Anderson est complètement différente de d'autres histoires du mouvement dadaïste qui ont pu être racontées. Et on voit bien les acteurs qui se rencontrent entre les pages de The Little Review. Et surtout, il y a des numéros formidables qui mériteraient d'être réévalués aujourd'hui, comme le numéro spécial que Jane Heap réalise à la fin des années 20 sur le théâtre avec Kiesler et qui reste une anthologie d'études sur le théâtre, sur la scénographie et sur le rôle des avant-gardes dans l'écriture du théâtre qui est absolument majeur. Et sans doute, on pourrait gloser sur The Little Review qui a fait par ailleurs l'objet de très nombreuses études monographiques sur le travail de ces deux femmes majeur dans l'histoire moderne et des avant-gardes.
Comme nous sommes en podcast, en format audio, donc on a parlé de frustration, ça va être assez frustrant pour nos auditrices et auditeurs de ceux qui viendront sur le site sosuiteplanète.com pourront avoir quelques visuels, mais pour tous ceux qui sont sur les applications de podcast, sur les téléphones par exemple, ils vont sûrement avoir envie de rentrer plus dans le livre. Alors j'ai sélectionné des petits extraits qui, je l'espère, nous permettront de donner une idée à nos auditrices et auditeurs de toute l'effervescence culturelle et intellectuelle que l'on trouve dans ce livre. Par exemple, nous sommes en 1915, Alfred Stieglitz, donc figure majeure de la photographie du XXe siècle, crée la revue 291 à New York, dominée par l'esprit Dada. Stieglitz a aussi une galerie où il expose les tendances de l'avant-garde européenne. Henri Matisse, Auguste Rodin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Marcel Duchamp et Francis Picabia, entre autres. Les revues, on le voit tout au long de ce livre, était très souvent lié à des galeries et ce qui m'a étonnée, moi qui ne suis pas du tout dans tout ça, c'est de voir qu'en fait, elles étaient aussi souvent, pas toujours, mais souvent créées par les artistes eux-mêmes. Comme si il y avait une idée de « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Et on retrouve André Breton, Apollinaire dans nombre de revues. C'est incroyable, hein, cette activité.
La revue, c'est, tout à fait, c'est une tribune. C'est une tribune de valorisation, d'affirmation, d'engagement. Et l'économie des revues d'art et, ou des cultures est très, très intéressante en général. Ça pourrait faire l'objet d'une étude à part entière. Vous avez bien sûr les bulletins de galerie qui sont les vitrines. Les vitrines, les organes de valorisation des artistes d'une galerie, de l'engagement de la galerie, de diffusion d'une galerie. Et l'histoire de ce XXe siècle artistique et culturel est traversée par des bulletins de galeries essentiels. Le bulletin de l'effort moderne pour Léonce Rosenberg, les revues de Paul Westheim en Allemagne, ce sont des organes d'art et de culture qui ont modelé cette histoire de l'art et qui ont accueilli entre leurs pages toute cette modernité-là, toutes ces avant-gardes. Après, vous avez ce genre à part entière qui a un long héritage de la revue d'artistes, qui, en effet, on peut la situer avec Stieglitz et 291, qui est un très, très bon exemple, mais on peut la voir aussi dans le sillage de la revue de Picabia, 391, qui s'inspire directement de cette revue et il la détourne. On peut le voir dans les petites revues dadaïstes, qui sont des brûlots à eux seuls. La revue Merz de Kurt Schwitters, la revue New York Dada de Marcel Duchamp, et qui inscrivent justement ce projet de la revue pour la valorisation des travaux, bien évidemment, mais de la revue comme objet d'art. De la revue comme terrain d'invention plastique, graphique, intellectuelle. Vous avez les revues d'architectes qui sont d'autres cadres, d'autres genres de revues qui permettent la diffusion des structures, des théories, des textes théoriques et sur l'architecture qui sont extrêmement importants. Vous avez des revues qui jouent aussi sur le terrain architecture, esthétique industrielle, design, art décoratif, design d'objets, design graphique et qui ont leur propre économie éditoriale à l'intérieur et qui permettent d'évoquer des thématiques et des sujets qui vous intéressent, je pense, et je pense qu'ils intéresseront aussi vos auditeurs sur la dimension d'architecture durable, d'écologie, de comment construire de manière durable et de manière intelligente. Et on a à travers cette anthologie plusieurs cas d'études comme les revues brésiliennes ou comme les revues latino-américaines en général d'architecture et de design. Peut-être on va les évoquer un peu plus tard, mais qui sont même aujourd'hui des revues phares de cette pensée de l'architecture. Et puis vous avez les revues littéraires qui ont des économies de reconnaissance pour certains poètes, pour certains écrivains. Vous avez des revues politiques qui ont leurs propres engagements, comme les revues au moment des grands mouvements tricontinentaux. Peut-être on va revenir là-dessus, et qui traversent vraiment le siècle.
Et par rapport à 291, le texte donc à cette revue 291, le texte de Laurence Gaille-Parmentier dit « Le dernier numéro de 291, dont la couverture est rehaussée de la photo d'un masque du Congo, témoigne des activités de la galerie éponyme et des discussions qui y ont lieu sur l'art africain et sur son influence sur l'art moderne. » Est-ce que c'était commun à l'époque, en 1916, de discuter de l'influence de l'art africain sur l'art moderne? Parce que ça a fait débat, je crois, en France.
Oh, complètement. Et bien sûr, ce n'était pas uniquement, d'ailleurs, cantonné aux pages de 291, mais que le rôle des arts dits primitifs, et je pense que le terme est pas très heureux pour l'employer dans ce contexte. Et si on voit la manière dont les arts africains, dans toute leur diversité, ont pu être conviés au débat des arts modernes, ça c'est une histoire déjà plutôt bien connue aujourd'hui et qui a suscité de très nombreux travaux. Mais on est avec Stieglitz, avec 291, on est en plein dans ce débat sur le rôle des arts africains dans la construction intellectuelle et visuelle de l'art moderne. Et pas seulement. Si vous parcourez, par exemple, les pages de Der Querschnitt, de cette revue allemande des années 20 et 30, vous rencontrerez des photographies prises dans des collections, des grandes collections du XXe siècle de masques africains, de collections exotiques qui figurent dans les pages des revues. Alors, donc, on revient encore à cet aspect qu'on évoquait en tout début de ce dialogue sur quel récit parallèle et quel récit de l'histoire de l'art on raconte. C'est justement, si on plonge un tout petit peu avec attention dans certaines revues et dans certains articles, on voit bien que ça déstabilise beaucoup nos a priori sur certains débats très actuels aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, le mouvement Dada a été visiblement très généreux et créatif hein, en publication de revues et certaines de leurs trouvailles ont influencé, dites-vous, l'histoire visuelle et graphique du XXe siècle. Donc, c'est quand même très important. Vous écrivez, Hans Richter affirmait en 1924 que les revues de la modernité artistique seraient impensables sans l'expérience Dada. La création fut foisonnante et donna lieu à une extraordinaire créativité matérielle. Et on voit là toutes les formes, hein, tracts, affiches, revues éphémères, papillons, dépliants, feuillets volants, almanachs, véritables laboratoires typographiques et véritables outils de promotion des activités du groupe élargi. Est-ce que l'on retrouve encore aujourd'hui trace de cette influence ?
Oui, on la retrouve et il faut la chercher peut-être auprès des jeunes artistes et des jeunes designers et des jeunes typographes qui réinventent aujourd'hui, peut-être beaucoup plus dans l'espace digital, mais sans abandonner complètement le médium matériel de la revue. On la retrouve, cette énergie. Dada décloisonne tout avec cette force de destruction et de négation qui lui est propre, mais avec une force paradoxalement très constructive et très inventive au niveau des revues. Bon, vos auditeurs ne pourront pas les voir, mais il faut imaginer que tout est éclaté entre les pages d'une revue Dada, la page elle-même, les mots, les structures, les dynamiques internes de la page avec des diagonales ou des éclatements de mots saisissants. La revue, encore une fois, la revue Mertz de Kurt Schwitter qui est à la fois sur ce balancement entre l'éclatement Dada et l'ordre de constructiviste qui s'impose sont des exemples majeurs de cet éclatement-là, typographique, graphique, et avec des structures de pages remarquables. Il y a une autre figure majeure qui est entre ces deux de termes de dadaïsme et constructivisme, c'est Theo van Doesburg, qui est un double dadaïste, sous le pseudonyme Ike Bonset, et qui est l'un des créateurs majeurs de revues des années 20, et qui invente cette revue qui se lit dans tous les sens de lecture, qui s'appelle Mécano, et qui inclut des objets curieux, des dynamiques de lecture différentes, des photographies et des photomontages extrêmement importants, avec des couleurs différentes. Donc il y a cette matérialité, elle est exploitée au maximum dans les revues Dada, et on la retrouve d'ailleurs comme un fil rouge sur tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours. Vous avez des reprises des revues Dada, des détournements, des déclinaisons des revues Dada dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, quand il y a une belle dynamique post-dadaïste en terre américaine, et jusqu'à aujourd'hui. Et ça se passe par des typographies, par des matérialités très très diverses. Et par un esprit irrévérencieux, foncièrement irrévérencieux et respectueux du support. Donc c'est cette contradiction-là qui donne des résultats graphiques remarquables.
Alors on voit aussi à travers ces revues les influences d'autres cultures qui traversent les frontières. On peut trouver par exemple en 1918 à Amsterdam la revue Wendingen,
Wendingen, voilà,
ouais. sur laquelle Voilà, sur laquelle le texte du livre précise, de facture singulière pour l'époque, avec un format carré de 33 sur 33 cm, imprimé sur papier de riz, exclusivement au recto des pages et relié par un ruban de raffia. La revue témoigne d'influences orientales et japonaises très prisées dans les années 1920. D'une présentation intérieure très étudiée, sa typographie lyrique et son apparence expressive en font un magazine d'une élégance et d'une beauté surprenante de modernité. Et on voit bien se tisser, vous l'avez bien dans votre sélection, on le voit au fil des revues, on voit se tisser un réseau d'artistes et d'intellectuels qui relient plusieurs points du globe, bien avant Internet et les réseaux sociaux, avec des échanges, des influences, des collaborations. C'est assez fascinant parce que ça a l'air de créer vraiment une dynamique à l'époque, ces revues, une dynamique différente peut-être de celle créée par les œuvres elles-mêmes.
Tout simplement parce que la revue circule plus vite qu'une œuvre. Elle se diffuse plus vite par les abonnements, par les subscriptions, mais elle se colporte plus vite. On la prend dans sa valise et on la diffuse. Il y a une figure exceptionnelle de ce point de vue de grand colporteur et animateur de revue qui est Marinetti, grand père des revues futuristes et animateur de revues futuristes à lui seul, ou Prampolini ou Depero qui sont des figures très très importantes. Mais Wendingen, par exemple, c'est une revue remarquable parce qu'elle arrive à tisser ce réseau par le biais des architectes, par le biais des décorateurs, par le biais des graphistes qui sont associés pour illustrer les couvertures de la revue Wendingen. L'école des revues néerlandaises est une école majeure du XXe siècle et un laboratoire typographique qui se prolonge jusqu'à nos jours en termes d'innovation et d'inventivité. C'est clair que le territoire néerlandais en termes de création de revues est à l'avant-garde du support matériel et de la qualité des revues réalisées. Mais Wendingen, c'est une revue complexe, elle est magnifique visuellement, c'est une revue complexe qui fait figurer entre ses pages à la fois des grands architectes comme Mies van der Rohe, qui est le père de l'architecture moderniste, Frank Lloyd Wright, des grands affichistes des années 20 et 30 néerlandais, et un côté presque symboliste dans la décoration de certaines de ses couvertures. Donc c'est un objet très très atypique, Wendingen. Voilà. Et peut-être pour rebondir sur le côté réseau qui est inhérent aux revues modernistes, aux revues d'avant-garde, et on insiste beaucoup sur cette dimension dans cette publication, il y a un dispositif qui apparaît toujours en quatrième de couverture des revues qui s'appelle la revue des revues. Et dans la revue des revues, vous avez toutes les revues consoeurs ou les revues partenaires ou les revues collaboratrices qui apparaissent dans les revues modernistes. Et c'est là, c'est dans cette revue des revues, dans le quatrième de couverture, que les relations véritablement internationales se lisent de manière remarquable et très tôt. Très tôt, dans les années 20, des revues hongroises communiquent avec des revues brésiliennes ou des revues argentines ou des revues italiennes à une échelle véritablement globale, qui passe par la revue. Oui.
Il y a une dimension évidemment qui est très présente et très forte hein, dans ces revues, c'est la dimension politique et de l'engagement. Moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant hein, de découvrir dans ces revues culturelles tous ces réseaux de gens animés d'une envie de changer le monde et qui déploient une incroyable énergie pour secouer la société là où ils sont, dans différents endroits de la planète, à différentes époques, quelquefois ouvertement, quelquefois clandestinement, avec beaucoup de passion, prenant des risques pour vivre ces publications qui servent leurs idéaux. Il y a pas mal d'histoires qui finissent mal, hein, d'ailleurs. Pour 1918, par exemple, on voit la belle revue Dassi et Dalla,
ouais.
Avec une couverture de Johan Miro, une revue d'avant-garde hein, qui disparaît en 1936, au début de la guerre civile espagnole, tout comme d'autres belles revues d'avant-garde auront des problèmes en Italie avec le régime fasciste, et que d'autres encore disparaîtront en Allemagne en 1936 sur ordre des nazis. Et en 1923, l'imprimeur de la revue The Next Call en Allemagne, qui avait installé une imprimerie clandestine pendant l'occupation nazie, a lui carrément été fusillé par la Gestapo à la fin de la guerre. On découvre aussi plus tard au Brésil, en 1955, la revue Modulo, créée par le célèbre architecte Oscar Niemeyer, pour être, donc il l'a créée pour être un magazine d'art, de culture et de lutte politique. Mais avec l'arrivée au pouvoir de la dictature militaire en 1964, le texte précise que, je cite, « le siège du magazine est saccagé, sa publication interdite et Niemeyer contraint de s'exiler en France ». Les revues culturelles ont une place particulière au XXe siècle dans ce qui a pu sous-tendre les engagements et les mouvements de société. On n'apprend pas ça à l'école, en fait.
On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans cette histoire de l'art canonique non plus. On pourrait évoquer d'autres titres qui sont présents dans cette anthologie, sur la revue ABZ, qui est sur le groupe d'artistes progressistes en Allemagne, qui en 1933 s'arrête, et les œuvres sont confisquées par les nazis. Et cette histoire politique, il y a un article extrêmement important dans cette anthologie, qui est l'article de Didier Schulman sur les périodiques culturels au moment de la libération, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et qui raconte justement les vies très complexes de certains titres pendant la guerre ou après la guerre. Ou quand vous voyez par exemple le cas de la revue Tropique qui est menée par Aimé Césaire en Martinique, et c'est quand même une revue qui est menée pendant le régime de Vichy et qui est sous contrôle et sous grande observation en Martinique. Ou bien vous avez des revues underground ou des revues qui ont une existence extrêmement précaire pendant la guerre, comme le groupe La Main à Plume et les productions qui sont réalisées en clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale. J'évoquerai pas ici toutes les saisies dont François Maspero a fait l'objet au moment de la guerre d'Algérie et au moment de la revue Partisan, ou bien tous les déboires de la revue Tricontinentale, ou toute la problématique des revues qui essayent d'en parler au moment de la guerre d'Algérie, essayent d'en parler du conflit sans en parler ou en le faisant avec beaucoup de difficultés. Donc, ce sont des revues qui sont complètement investies dans cet esprit du temps, avec des engagements très forts. À l'autre bout du spectre, vous avez les revues de collaboration, des revues qui n'en parlent pas du tout et qui font comme si de rien n'était, et qui arrivent à maintenir une activité florissante en des situations politiques extrêmement complexe. Et c'est cette histoire-là, et on le voit aussi dans cette anthologie, par certains titres qui sont choisis et sélectionnés, à quel point la négociation est compliquée en termes de revues, et y compris la négociation éthique pour certaines.
J'ai relevé aussi Labyrinthe, créée en 1944, une revue lancée par Albert Skira, qui avait déà fondé Minotaur. Labyrinthe est souvent distribué dans la rue ou dans les kiosques et réalisé avec Alberto Giacometti et Baltus. Labyrinthe entend, je cite, « offrir un espace aux artistes et aux intellectuels privés de moyens d'expression durant la guerre ». Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir à quel point ils déployaient beaucoup d'énergie, ces artistes, pour continuer à s'exprimer coûte que coûte.
Coûte que coûte, et dans des économies précaires, parce que certaines revues ont des durées de vie très courtes. Et elles arrivent en effet à mobiliser leurs moyens sur certains numéros, mais elles n'ont pas une longévité extrêmement importante. Et de l'autre côté, vous avez les revues qui arrivent à résister malgré et envers tout. Oui. Vous avez quelques titres qui sont évoqués dans cette sélection, comme la revue Domus, une revue qui est toujours active aujourd'hui. Et c'est une revue majeure de l'architecture, et qui, rien qu'en traversant la revue Domus, vous avez une histoire du XXe siècle de l'architecture et du design d'objets. Ou la revue, une autre revue très importante qui est Art in America. Et pareil, c'est une revue d'une grande longévité qui aujourd'hui encore est en vie et en belle vie. Et vous avez ces continuités aussi de certaines revues qui ont réussi à, certaines avec quelques interruptions, certaines avec quelques interruptions majeures, mais qui ont réussi à redémarrer.
1921, on trouve Broom à Rome, Berlin, New York, donc véritable, je cite, véritable charge contestataire contre le conservatisme national, mais aussi contre le rejet des valeurs de l'Amérique traditionnelle, la revue multiplie des interrogations littéraires, culturelles et identitaires dans un duel transatlantique ininterrompu. En fait, on voit tout au fil du livre que tout au long du XXe siècle, c'est un éternel recommencement, cette histoire de l'art et des revues et des mouvements qui y sont représentés. Il est toujours question dans chaque nouveau courant de faire émerger un monde nouveau, de bousculer ce qui est établi, de secouer, de transgresser, de dépasser, de marquer des ruptures avec ce qui a précédé. Et les revues témoignent de toutes ces agitations, des soubresauts, de la naissance de nouvelles idées, qui ne touche pas encore forcément grand monde au moment où les revues les enregistrent, mais on voit avec le recul de l'histoire qu'elles ont souvent fini quand même par influencer les sociétés. D'ailleurs, un mot revient souvent dans les textes de ce livre, c'est le mot « préfigure ». On sent effectivement que s'esquissent dans beaucoup de ces revues des courants artistiques. Ce sont vraiment, comme vous le dites pour la revue Klaxon, donc pour la revue Klaxon au Brésil, des incubateurs de tendances. Ce mot incubateur, ça résonne bien, je trouve, avec tout ce qu'il y a dans ce livre. Ce mot incubateur s'applique en fait à beaucoup de ces revues.
Oui, et c'est cette idée aussi de transformation de monde qui est prise dans le projet de la revue comme projet non seulement artistique, mais comme projet social. Beaucoup de revues des années 20 sont traversés par cette volonté de transformer le monde. Je crois que les revues constructivistes qui sont très très impliquées dans une action élargie sur tous les registres et dans tous les domaines de la vie quotidienne, sont des belles incarnations de ces projets sociaux et artistiques et culturels très très fusionnels presque, et qui enregistrent aussi les dynamiques de la vie quotidienne et de la vie moderne. Les changements technologiques, les changements de comportement, les projets littéraires, tout ça c'est pris dans les revues, et sans doute d'autres projets politiques, on peut en retrouver aussi dans les années 50 et 60, et on en trouve peut-être moins aujourd'hui en termes d'ampleur de projets intellectuels et de projets culturels portés par les revues, mais sans doute ces moments sont peut-être des moments utopiques, parce qu'ils préfigurent des utopies pour certains cas, mais qui ont cette énergie utopique, peut-être, qui alimente encore aujourd'hui certains concepteurs de revues, peut-être moins aujourd'hui. Mais vous l'avez sur différents registres, sur les revues constructivistes que j'évoquais tout à l'heure, vous l'avez aussi sur une autre revue qui est remarquable, qui est la revue La Russie en construction, qui était un organe de propagande. C'est un autre outil de transformation du monde qui respecte la logique du réalisme soviétique et d'une société soviétique qui souhaite se communiquer à travers les revues. Il ne faut pas oublier que cette revue était diffusée dans 4 langues et à l'échelle planétaire. Donc, vous avez différents projets sociaux qui alimentent les projets de revues et qui sont des projets de transformation, en effet.
Et dans cet esprit de préfigure, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de Black Mountain Review ?
Oui.
Parce que là aussi, apparemment, il y a eu une concentration qui, finalement, après, est ensuite apparue largement sur la scène internationale, mais on voit que ça préfigure aussi.
Oui, tout à fait. C'est ma collègue, c'est Laurence Gay qui en a beaucoup écrit sur Black Mountain Review et qui est rattachée à une collectivité d'artistes et d'écrivains en Amérique du Nord, qui est une revue avec une durée de vie assez courte, mais qui incarne peut-être ces expérimentations poétiques et artistiques qui seront moteur très actif pour la suite, pour l'abstraction gestuelle, pour la littérature expérimentale américaine, pour tout le travail des années 50, 60, jusqu'à dans les années 70, qui sont capturés dans cette revue, avec les, certaines participations extrêmement importantes de la Generation Beat, de Allen Ginsberg, de ce que deviendra par la suite la Beat Generation. Donc, ce sont des, oui, des incubateurs de toute petite durée, mais qui font long feu. Qui font long feu, en effet.
Je vous donne rendez-vous pour écouter la suite de cette interview dans le second épisode de ce podcast de So Sweet Planet avec Mika Gergescu, qui nous parle de ce superbe livre La fabrique de l'histoire de l'art, 200 revues, de 1903 à 1969, un magnifique panorama sur plus de 400 pages des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publié par les éditions textuelles, avec la bibliothèque Kandinsky du Musée d'art moderne du Centre Pompidou à Paris. À très bientôt sur So Sweet Planet pour la suite. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.